Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne. Vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 117. Lumière, chaos, couleur, la poésie de Germain Reuss. Chers amis, bonjour. Alors, c'est un peintre très connu, et quand on le rencontre, on se dit, oulala, quel monsieur très sérieux, parce qu'il est aussi prof de fac en sciences, théorie et pratique des arts. Il a dirigé une vingtaine de thèses. Et si on va dans son atelier, il y a des toiles immenses avec des titres vachement compliqués. Par exemple, « Tant de lumière cavale les mâchoires de l'ombre ». Et si on regarde du côté des jeunes filles en fleurs, c'est-à-dire la poésie, le monsieur, il a publié plus de 400 recueils, alors des recueils de lui, mais aussi des autres. Alors, sa maison d'édition s'appelle « Les lieux-dits ». Les lieux-dits éditions, et à Strasbourg, on se souvient de son nom parce qu'il est fondateur du groupe Attitude, puis du groupe Faisant, super connu en 1983, la revue Feuilleton, avec un S entre parenthèses, le groupe Polygone et le groupe Vie sa vie. Alors, Vie sa vie, c'est un petit jeu de mots, hein, parce que ça s'écrit qu'avec des W. Et il y a encore plein d'autres performances que l'on pourrait citer. Quel artiste, Germain Reuss ! Bonjour, Germain Reuss.
Bonjour, Ambroise. C'est drôle.
Alors, je devrais montrer que je suis très, très impressionné par un monsieur aussi sérieux, aussi prolifique, avec une telle ardeur productive, une telle réflexion théorique et une telle renommée sur le marché de l'art. Vous vendez bien vos tableaux et vos sculptures monumentales, ça se vend.
Les sculptures, les peintures se vendent.
Oui.
Est-ce qu'elles se vendent toujours ? Non. Est-ce qu'elles se vendent souvent ? Non. Mais c'est une... Moi, je suis là depuis très longtemps, donc une espèce de manière de tenir aussi dans la durée. Mais c'est ça qui compte, c'est-à-dire que ça crée une épaisseur, une épaisseur de sens, de réflexion, et j'espère aussi dans la production artistique, quelque chose qui peut toucher les autres.
Alors, je devrais dire, salut Germain.
Oui.
Tu te souviens ?
Absolument.
Parce qu'on était pions ensemble au bahut de Bichevillers, au collège technique, quand nous étions étudiants. Yo, on se connaît depuis si longtemps. Et alors, à l'époque, et c'était en 1973, donc il y a plus d'un demi-siècle, qui aurait imaginé qu'on deviendrait comme cela en 2025 ?
Eh oui. Je corrige une chose, c'était Agneau.
Ah, Agneau ?
Ouais.
Ah, j'étais à Bichevillers d'abord. Alors, c'était en 74, alors.
Voilà.
C'était à Agneau.
C'était Agneau.
Agneau.
Ouais.
Ça s'appelait 123 routes de Strasbourg.
Et nous étions pions, effectivement.
Nous étions pions et on avait une...
Et c'était une belle époque, on s'amusait
formidable.
Bien.
Formidable. On pourrait faire une émission sur nos souvenirs de pions. C'était formidable. Il y avait les SE et les MI et on échangeait nos journées. Moi, je rentrais le dimanche soir et je partais le mardi. J'avais fini ma semaine et je pourrais retourner en fac après. Enfin, c'était formidable. Donc, Germain Reuss, l'ancien copain pion ensemble à Agneau, c'est le cheminement d'une carrière qu'on n'aurait jamais pu imaginer.
Si. Mais moi non plus.
Ah.
Moi non plus. La vie est faite de hasard, qu'on provoque, qu'on reconnaît. Mais c'est ce que j'ai fait.
Mm-hmm.
C'est ce que
et
j'ai
le
fait.
Travail quand même, parce que...
Oui, le travail constant, tout le temps. Mm-hmm. Oui, bien sûr. Bien sûr.
Parce qu'il faut produire, mais il faut aussi réfléchir, il faut...
Moi, je suis vraiment un artiste qui pense ce qu'il fait, qui essaie de comprendre ce qu'il fait et de... Et peut-être aussi de le mettre dans un univers qui est beaucoup plus large, qui n'est pas le mien. Hein, c'est-à-dire que je peux le confronter à la science, je peux le confronter à l'art ancien, je peux le confronter aux autres artistes. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui l'art contemporain ? C'est un terme que j'utilise de moins en moins. Je dis l'art d'aujourd'hui, parce qu'il est multiple. Il y a celui qui me dit que l'art contemporain, ça se passe à tel endroit, en général, je fuis. parce que c'est une pluralité, c'est une multiplicité, etc. Alors c'est pas sans inconvénient, hein, ça pose la question des critères, ça pose la question de la critique, etc.
Ça a quand même des avantages. Parce que, et c'est très impressionnant, vous êtes chevalier des palmes académiques, hein, par Alain Béretz, hein, qui était le grand doyen de la fac de Strasbourg, et chevalier dans l'ordre national du mérite par la ministre de la Culture, Catherine Trottmann.
Oui.
Ça, c'est un aboutissement, c'est la gloire.
Mais c'est des choses qu'on ne demande pas. Hein.
Ah oui, oui, on dit voilà. Toujours
alors
ça.
On dit souvent que ça se refuse pas, ça se porte pas, ça se... Je sais pas, moi, je trouve que c'est, à un moment donné, que les institutions et qu'on soit reconnu comme ça, je crois qu'il faut l'accepter.
Oui.
Voilà. Après, il ne faut pas en faire... moi, j'en fais franchement pas une histoire. Et tu as noté, ou vous avez noté, que je ne la porte pas.
Oui. Hein.
Mais bon, donc...
Mais est-ce qu'on pourrait tricher et porter un petit truc? C'est un petit truc rouge ou bleu?
C'est bleu pour l'Ordre national du mérite.
Oui.
Est-ce qu'on peut tricher? Il y a tant de gens qui trichent.
Ah oui, oui.
Voilà.
Mais c'est bien.
Où est le vrai et le faux aujourd'hui?
Alors moi, j'ai un souvenir justement à Guenau. Alors, un petit peu avant d'être pion, quand j'étais au lycée, on nous emmenait, je crois que c'était le 11 novembre, au Monument aux Morts. Donc, les élèves du lycée en rang, et puis il y avait des trucs. Et la deuxième année où on m'a amené au Monument aux Morts, donc c'était dans les années 60, j'avais été très impressionné par les soldats, enfin les anciens, qui avaient toutes leurs médailles accrochées sur la poitrine. Et moi, j'avais accroché des porte-clés, parce que c'était à l'époque où on collectionnait les porte-clés et tout. Donc j'avais mis 5-6 porte-clés. Je pense que j'étais conscient que c'était une insolence terrible.
Mais il y a bien des gens qui t'ont pris pour une personne importante. Alors.
Ah non, je me suis pris une double baffe d'un ancien combattant qui, voilà, et j'étais quand même étonné de prendre une baffe, mais assez fier quand même de moi, parce qu'après, voilà. Donc, pour les médailles, c'est Boris Vian qui disait, je ne sais plus quoi, mais enfin, ça ne vaut pas le coup de mourir pour une médaille de toute façon, mais une médaille pour un tableau, pour un coup de peinture, c'est quand même, ça je trouve que c'est chouette.
Mmh.
Voilà. Alors, est-ce qu'on peut décrire avec des mots un tableau? On est à la radio, on ferme les yeux... Sauf si on est au volant. Hein. Donc attention, chers auditeurs de Radio Judaïque à Strasbourg, on parle de vos peintures. Qu'est-ce qu'on voit?
C'est drôle parce que cette question me fait penser à une remarque qu'avait fait Simon Antaille, qui disait qu'il faudrait crever les yeux des peintres. C'est-à-dire que... Ben oui, parce que... Est-ce que la peinture, c'est une chose qu'on observe et qu'on peint? C'est-à-dire que c'est une représentation du réel? Ou est-ce que c'est une manière de regarder en soi? Alors moi, je suis plutôt de la deuxième partie. Je regarde en moi. Je pourrais presque dire que je peux peindre les yeux fermés. Longtemps, par exemple, j'avais un ami très proche, aveugle, que j'emmenais voir des expos. Et je faisais toucher les tableaux et je lui parlais des tableaux. Et il les voyait. Très sincèrement, il les voyait. Et parce que la couleur a une chaleur aussi. Donc qu'est-ce que je pourrais dire de ma peinture? Ben disons qu'elle part de la lumière, elle parle donc de l'ombre. Elle parle, l'ombre n'est qu'une malice des lanternes, c'est un merveilleux poète qui nous le disait. Donc je crois que si on commence à dire aux gens que vous avez des sensations, que ces sensations font quelque chose dans votre corps, dans votre tête, dans votre esprit, à partir de là, ils peuvent aussi rentrer dans la peinture. Ils n'ont pas besoin de voir un lac, une forêt, ils ont le droit, hein. Et évidemment, ou un oiseau,
ou
une biche au bord de l'eau. Cela existe. Évidemment, moi, j'ai rien contre. Mais c'est pas du tout ce que je fais. Je crois que je suis sur un terrain beaucoup plus... Alors, parfois...
Est-ce que c'est ce qu'on
simplicité et complexité.
Abstrait, c'est ça?
Oui, alors abstrait, est-ce que ça existe?
Bon,
abstrait.
Alors je vais poser la question autrement. Est-ce que c'est de la peinture qui est autobiographique? C'est-à-dire
autobiographique.
Qui reflète, parce que vous avez dit, ça vient de l'intérieur et
oui,
tout.
Oui, oui,
alors,
oui.
Vous avez
alors,
une
y a,
vie...
Il y a deux choses. Là, il faut répondre deux choses.
Les c'est-à-dire souffrances,
que
les...
L'artiste vient toujours avec son corps. Toujours.
Oui.
Il peut pas, un artiste, un écrivain, n'importe quel humain vient avec son corps. Donc il y a quelque chose de biographique et d'autobiographique.
Ou son esprit.
Sauf que ça suffit pas.
Ah.
Ben oui, parce que s'il fait que ça, C'est-à-dire, il ne va parler que de sa souffrance, ou que de sa joie, ou que de sa vérité, etc.
Ou alors il faut se mettre de la peinture sur le corps et se coucher dessus, et voilà.
Voilà. Non, mais je crois vraiment qu'il faut qu'il arrive à mettre en place un édifice, comme une architecture. Hein, une architecture, c'est pas juste un endroit où on rentre par une porte et puis on s'arrête. C'est une architecture, ça se visite. Là, je suis arrivé à la radio, je passais par des couloirs, il y avait des gens, il y avait une courette, il y avait... Donc, une peinture, c'est la même chose. C'est-à-dire, ce qu'on fabrique, c'est un édifice. Et il faut que cet édifice, au-delà de sa propre représentation ou de sa propre démarche, soit visible par l'autre. Par l'interlocuteur,
donc
par le regardeur.
Donc c'est le problème de la transmission.
Il y a une transmission. De toute façon, si tu regardes un de mes tableaux...
Il faut donner le vocabulaire.
Tu vas regarder comment Ambroise Perrin est et comment Ambroise Perrin s'est constitué. Mais en même temps, tu es bien obligé de considérer ce que je te donne à voir. Ça ne veut pas dire que je te l'impose.
Oui, parce qu'il n'y a pas de jaune, par exemple,
voilà,
dedans.
Ça veut dire qu'il va y avoir un échange, à mon sens, assez fabuleux, s'il y a des deux côtés une disponibilité. S'il n'y a pas de disponibilité, si je refuse de voir, si je refuse d'écouter, si je refuse d'entendre, etc., ce qui n'est pas la même chose...
Si on se dit « Où est la biche dans le tableau ?»
ça commence là, il ne se passe rien.
Ça ne marche pas. Alors, dans votre livre « Lumière, chaos, couleur », il y a 4 photos de vous, et alors 0 sourire. Hein. C'est assez saisissant.
Ah, mais pourtant, je ris assez souvent.
Mais oui,
la vie.
Justement. Donc, pourquoi se représenter, hein, c'est une continuité de questions.
C'est quelqu'un qui me photographie.
Oui.
La photographie, elle est un peu contraignante, toujours. On ne sait pas trop comment se tenir face à ça. Et donc, je pense aussi que c'est. Parce que ça s'est passé dans l'atelier, et puis il y a un degré de concentration. Tout ce livre-là qui est évoqué, ça a été un livre, c'est une jeunesse de 6 mois. Donc, toutes les photos des tableaux, les photos qui me concernent, c'est pendant que je faisais des choses, hein, pendant que j'articule des éléments de sculpture ou que j'accroche un truc. Et ça. Donc, je suis concentré. Je ne suis pas en train de...
Oui, mais on sent quand même que le photographe est là, donc on peut avoir un petit côté complice avec l'objectif pour non.
Alors je vais m'interroger, je vais voir si sur d'autres photos je suis souriant parfois. Mais
en tout cas,
sûr,
à la radio,
hein.
Vous êtes souriant. Chers auditeurs de radio Judica à Strasbourg, je vous assure, Germain Reuss, il sourit. Hein, voilà, c'est comme Greta Garbo, elle sourit. Oui, c'est ça. Voilà. Alors j'ai feuilleté aussi vos ouvrages de poésie ou de texte. Alors je cite quelques titres. Où va la poésie ? Alors on comprend que c'est une réflexion théorique. Hein. Un silence dans le ventre. Alors là, vous évoquez la mère de votre mère, de votre maman. Tu crois, c'est l'été, point d'interrogation. Alors avec un point d'interrogation qui renvoie à un traumatisme et précisément, alors on peut en parler, un accident de voiture gravissime à votre adolescence. Alors je ne sais pas si vous avez envie que l'on développe ce point, mais est-ce que de cette manière, un poète, un plasticien, est-ce que son œuvre est, alors on en a parlé, autobiographique, c'est-à-dire qu'il met de soi dedans, mais c'est aussi une manière de raconter sa vie.
Pas de la raconter, tout en n'étant pas quelqu'un qui veut supprimer la narration. Mais je crois que les événements qu'on a dans la vie, mais tout le monde a des événements, cet événement a été traumatisant pour moi, il m'a construit. C'est-à-dire j'aurais pu sombrer dans le ressassement de cet accident, de ces multiples opérations.
Vous avez eu un accident de voiture
à 15 ans. Et j'ai mis beaucoup d'années à réapprendre à marcher. Et vraiment beaucoup. Et depuis, je suis opéré régulièrement. Mais cette chose m'a donné une force. Une force pour dire qu'avec ça, je peux fabriquer quelque chose dans ma vie. Et quelque chose, non pas transmettre une idée de la douleur, une idée de l'accident, une idée des trucs, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si là, maintenant, dans l'émission de radio, pendant 10 minutes, je dis « je souffre », on va dire « mais il nous embête, ce type, c'est pas possible ». Donc il y a quelque chose qui doit être transcendé par l'artiste, et il faut qu'il trouve une force à l'extérieur et à l'intérieur. Hein, c'est une espèce d'échange. C'est comme une peau. Une peau, il y a un dedans et un dehors. Et moi, je travaille sur ce dedans et ce dehors.
À 15 ans, vous saviez que vous alliez être artiste?
Non, j'en avais l'intuition.
Oui.
J'en avais l'intuition dans les nuits de non-sommeil et de douleur.
À l'hôpital.
Oui, à l'hôpital. Oui. Et j'en avais l'intuition, mais j'en avais pas les éléments pour le faire. Mmh. Ça a mis une dizaine d'années. Je savais que j'allais faire de la peinture. J'ai commencé à écrire tout de suite. Mais au début, j'allais presque dire, c'était n'importe quoi. C'était ce que j'avais sous la main. J'étais pas dans un milieu où on peignait. J'étais pas forcément dans un milieu où on écrivait. Donc, il a fallu inventer aussi un style, un fond. Enfin, Victor Hugo nous disait que le style, c'est le fond qui remonte à la surface.
Hein. Oui.
Donc, il faut que cette profondeur en soi, il faut qu'on...
Mais le fond, parfois, il y a des artistes, ils sont dégoulinants de bonnes intentions.
Et ça marche pas.
Ah, les romans d'amour.
Non, mais on est d'accord.
Les trucs d'amour, les machins, les roses, les couleurs de l'amour et tout ça.
Non, mais
c'est insupportable.
Je crois vraiment qu'il faut rendre autonome la pratique qu'on a d'écriture ou artistique ou musicale. Et si on la rend autonome, c'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'il faut la penser, si on la rend autonome, à un moment donné, l'autre peut aussi la penser, peut aussi la recevoir. Mais si on ne parle que de soi, je veux dire, il se passera rien. On peut compatir.
Oui, on va faire un PowerPoint sociologique
point précis. Ça n'a pas...
Mais alors, donc, vous êtes prof de fac, je l'ai dit. On se vous voit parce qu'on est à la radio. Et donc, vous avez suivi 20 thèses. Bon, d'abord, c'est énorme.
Oui, ça a été beaucoup de travail. Beaucoup de travail.
Oui, et puis beaucoup d'investissement. Mais on fait une thèse de quoi ? Un doctorat de pinceau, quoi, de couleur, de peinture.
Non,
c'était quoi ?
Non.
C'est quoi ?
C'est
théorique ?
En art, c'est une... comment dire ? C'est l'accordement d'une pratique artistique, réellement, il la faut, et c'est l'accordement à la théorie, c'est-à-dire penser cette pratique. Et penser cette pratique, c'est évidemment la penser avec ce qu'on dit des philosophes, ce qu'on dit des politiciens, ce qu'on dit des scientifiques, etc. Et c'est à partir de là qu'on peut faire thèse, c'est-à-dire qu'on peut trouver, par exemple, une des dernières thèses que j'ai dirigée, qui est une thèse vraiment très intéressante sur art et folie, et c'était à Les Heidi.
Foucault,
une artiste. Alors, il y avait une référence à Foucault, mais pas seulement. C'est-à-dire, il y a une grande référence à Artaud. C'est-à-dire, cette grande question, est-ce qu'un artiste est fou? Est-ce que Van Gogh est fou?
Hein, c'est-à-dire, de Nerval, s'est pendu à la fin.
Voilà. Ce soir, la nuit sera noire et blanche.
Et la dernière heure est la première.
Absolument. À partir de là, il y a quelque chose qui se constitue chez celui ou celle qui fait la thèse, qu'il faut accompagner. Qu'est-ce qu'il fait, un directeur de thèse ou une directrice de thèse? Il accompagne à ce que la thèse se densifie, s'ouvre, et il s'articule pour les autres aussi. Mmh. Il faut que les autres y trouvent un intérêt.
Mais alors, le thésard, il traduit tout ça par des mots.
Ah oui.
Il écrit.
Mais aussi, on peut présenter son
œuvre. Thèse avec des tableaux.
Il faut les deux.
Oui,
il faut une articulation.
Donc il faut de la place.
Ça a été inventé après 68.
Ah oui,
alors là, la place, je veux dire, l'université est souvent assez mauvaise quant à ça et n'octroie pas la place qu'il faudrait.
Et donc ça, c'est quand même grâce à mai 68. Hein.
Absolument.
Ah oui.
Absolument. Les arts plastiques à l'université s'inventent après 68.
Ah oui. Alors, vous écrivez « Un chagrin se dit avec pudeur ». J'ai puisé ça dans un de vos bouquins.
Oui, c'est dans « Un silence dans le ventre ».
Ah ben ouais, en plus, vous connaissez vos œuvres par cœur. Mais avant tout, hein, alors « se dit avec pudeur », mais avant tout, il faut le dire. Vous dites aussi « il murmure pour que le souffle revienne ». Donc, il faut trouver des mots et tout, mais ça, c'est un travail de littéraire, d'écrivain.
Oui, absolument.
C'est plus un travail de peintre.
Ah oui, non, mais quand j'écris, je suis. Alors peut-être que je suis un écrivain peintre, mais c'est pas la peinture que je pense quand j'écris à ce moment-là. Mais par exemple sur cette phrase, que le chagrin se dit avec pudeur, ça veut dire que dans ce livre, c'est la mort de ma mère. Or la mort de la mère pour chacun, pour tout le monde, c'est une chose terrible. C'est une chose terrible, et quel que soit l'âge, d'ailleurs. Et donc, il faut que ce chagrin dont moi je parle, qui est le mien, il faut que ce soit le chagrin de chacun. Chacun se reconnaît dans ce chagrin. Mmh. Et je crois que le livre, ça a été dit, j'en suis assez heureux, ça a été compris, c'est que les autres qui ont vécu ça, ou qui vont peut-être le vivre, hein, parce que, voilà, mais ma fille, par exemple, elle n'a pas vécu l'amour de sa mère. Et donc, elle a pu lire ce livre, et elle l'a reçu. Elle l'a reçu, bien sûr, elle a connu sa grand-mère. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut écrire de manière à ce que l'autre reçoive quelque chose qui est plus grand que ce qui est dit pour soi-même. Toujours. Moi, je pense toujours à ça, hein, c'est-à-dire toujours plus grand que soi-même. Mmh. Je peux revenir sur Où va la poésie ?
Oui.
Parce que Où va la poésie, c'est un essai qui a fait suite à une conférence qu'on m'avait demandé, qui était au départ courte, et qui s'est transformée en livre. L'éditeur m'avait demandé que ce soit un livre. C'est évidemment un titre provocateur. Je veux dire, moi je ne sais pas où va la poésie. En tout cas la poésie contemporaine, j'ai pas pu dire tout à l'heure que l'art contemporain, il est multiple, plural, etc., pour dire maintenant que la poésie, ça se passe à tel endroit. Hein. Donc, elle se passe à plein d'endroits. Et dans ce livre, j'évoque 70 poètes, 4, 5, 6 sont morts, contemporains, mais qui sont de, j'allais presque dire, de tous bords. Hein, y a des formalistes, il y a des lyriques. Donc, ça, juste pour prendre ces deux catégories, qu'est-ce que ça veut dire des formalistes ? Qu'est-ce que ça veut dire des lyriques ? Est-ce que le lyrisme est encore possible aujourd'hui ? C'est ça que j'interroge. Mmh. Et je dis que oui. C'est-à-dire que chaque auteur, précisément à partir de ça, son autobiographie, choisit un chemin poétique, mais qui s'autonomise. Soit dans le formalisme, ce serait quoi ? Ou l'hypo, c'est un peu formaliste. Mmh. Hein, c'est-à-dire, on travaille avec des mots, on assemble des mots, il y a des jeux mathématiques.
Du sens. Voilà. Ouais, donc le fameux livre de Georges Perec.
Mais il y a du sens. Chez Jacques Roubaud, le sens est énorme.
Oui. Hein,
mais Jacques Roubaud était mathématicien aussi. Oui. Donc, ce qui se passe.
J'ai eu l'honneur qu'il fasse la dédicace de mon livre, Madame Bovary dans l'ordre, qui est. Le classement par ordre alphabétique de tout le vocabulaire du roman de Flaubert. Et je citais Georges Perec, hein, puisqu'on parlait de l'Oulipo, La disparition, ouais. Un roman sans la voyelle E, qui est la lettre la plus utilisée dans le vocabulaire. Donc c'est une contrainte. Et, oui, voilà. Donc, cette contrainte, vous y adhérez.
Ah oui, mais je crois qu'elles existent. Moi, quand j'écris, je me donne des contraintes aussi.
Oui.
Je procède beaucoup par répétition. Je fais jamais de rime en fin de vers, oui. Mais j'en fais souvent au début de vers.
Pourquoi c'est ringard ?
Mais non, pas du tout, parce que c'est justement ma procédure à moi. Mais non, je lis des choses. Par exemple, Bernard Vargafsik, à qui j'ai été très lié, continuait d'écrire en alexandrin. Et Vargafsik, c'est un des plus grands poètes qu'on a eu au XXe siècle. Voilà. Donc, j'ai eu la chance d'être accompagné par Bernard Vargafsik pendant des années. D'ailleurs, parfois, il me disait dans ce que j'écrivais, ça, tu peux pas. Ça, tu peux pas.
Ah oui, mais voilà. Alors, du coup, vous le gardiez.
Et donc, oui, souvent d'ailleurs. Oui. Non, mais ça permet une incroyable discussion. C'est quoi ce on peut ou on ne peut pas ?
Ah ben.
Hein, en art, en peinture,
déjà
en
truc. 4 ans ou 5 ans, tu peux pas
tu
faire
peux,
ça
tu peux
et,
pas
et
faire
tu mets
ça,
quand
tu
même
faire...
ton doigt dans le nez.
Voilà.
Alors, Germain Reuss, vous n'avez plus 18 ans, mais vous êtes quand même très loin des 80. Est-ce que vous avez encore beaucoup de projets ?
Ah oui, alors là, c'est-à-dire...
Est-ce qu'il faut que vous viviez jusqu'à 120 ans ?
Non.
Non.
Non, 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 absolument pas.
Non.
Mais je voudrais vivre jusqu'à ce que la vie me permette de continuer de penser comme on pense et de rire comme on rit là, à l'instant dans nos échanges. Donc ça me suffit. Ouais, j'ai plein de projets. Je suis sur des projets parfois à long terme. On sait rien. La mort peut être. Je peux sortir de la radio et être écrasé par une bicyclette ou un camion, etc.
Donc une trottinette qui vous rentre dans le ventre.
Voilà, une trottinette. Donc à tout moment, hein, à tout moment, je peux me faire assommer par le micro, etc. Mais il me semble qu'il faut pas imaginer ça. Cette temporalité-là, je la vois pas. Je sais qu'elle existe,
oui.
Mais je construis énormément de projets. Beaucoup de projets avec les autres, pas seulement pour moi.
Oui,
je fais quand même beaucoup de choses.
Vous êtes un artiste qui travaille beaucoup avec les autres. Vous faites beaucoup des
ah, oui, ça,
comment
c'est,
on dit ça
c'est des
travail en groupe ou...
Alors, je travaille beaucoup en duo ou en collectif.
Oui.
J'ai passé ma vie à faire ça. J'ai même fait une thèse sur la création collective.
Oui. Mais alors, on travaille en duo, on tombe amoureux de l'autre ?
Ah, ça peut arriver.
Oui.
Ça peut arriver. Oui. Tout peut arriver dans un duo.
Ah oui.
Tout. Non, non, alors, mais vraiment.
Bon, on arrive à la fin de notre formidable émission, mais vu le nombre de tableaux et d'objets et d'installations qui remplissent votre atelier, alors est-ce qu'on peut le visiter d'ailleurs, votre atelier ?
Oui, on peut m'appeler, on peut me...
on vous aime, et quand on vous aime...
Quand je suis au travail. Au travail, c'est un moment solitaire.
D'accord.
Voilà, mais il y a d'autres moments. Je reçois des gens.
Voilà.
J'aime bien échanger, parce que ce que voient les gens, je ne le vois pas forcément.
Alors,
ça, c'est pas mal.
Votre atelier est archi plein. Qu'est-ce que vous allez faire de tout cela ? Des disciples, des assistants, des élèves, des enfants ou alors vous allez laisser des consignes ?
J'ai des enfants. J'avais écrit il y a très longtemps en exergue d'un de mes livres que mon maître n'a pas de disciples. Donc j'ai pas de disciples.
Mais alors, parce que moi j'ai... Alors on a calculé au pif 10 000 bouquins à la maison et ma fille m'a déjà dit « Papa, tu sais... »
J'en veux pas.
Une goulotte... Et puis, un truc en bas, là, un container, et tout part, voilà.
Non, je crois qu'il faudrait quand même... Je suis quand même à un moment de ma vie où j'aimerais bien qu'on arrive à trouver une situation qui permette à certaines œuvres de continuer d'exister. Alors, il y en a, hein. Il y en a dans les musées, il y en a dans les collections privées, il y en a... mais oui, je suis en train de faire... Il y a des choses qui sont dans l'espace public.
Pour résumer, tous les artistes rêvent d'une chose... De l'éternité.
Non, pas de l'éternité.
C'est dans Le Mépris de Godard, il dit ça.
Oui, mais...
Non, c'est
bon,
pas...
Bon, l'éternité, le mot existe.
Oui.
Comme disait Françoise Zolto, du mot liberté.
Oui.
Donc il doit y avoir quelque chose.
Voilà. Bon, ou de l'immortalité, grâce à ses œuvres.
Ouais.
Bon, c'était l'épisode numéro 117, Lumière, chaos, couleur, la poésie de Germain Reuss. Alors, si je pouvais résumer par un mot, cher Germain, je dirais, vous êtes majestueux et que votre œuvre est majestueuse. C'est vrai, avec la barbe, les trucs et tout, les cheveux blancs et tout, donc vous avez l'air d'un...
La majesté.
La majesté.
Non, c'est un beau compliment. Merci.
Eh ben, je suis heureux.
Merci.
Voilà. Alors, la semaine prochaine, dans Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïque à Strasbourg, on file aux États-Unis. Alors, ne craignez rien. Hein. On ne va pas faire acte d'allégeance à Monsieur Donald. Notre invité, c'est Madame Danielle Collin de l'association Alsace-États-Unis. We're gonna talk in English jusque dans le parc du château de Portales. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli. Et mon nom, tout en couleur, c'est Ambroise Perrin. Two fellows meet, like you and I. No connection between...